Je parle tout bas pour ne pas me réveiller.
Approche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé. Seulement si tu crois que c'est impossible. Dans tes rêves.
Dans tes rêves, il y a Davy Crockett et Calamity Jane qui vivent d'amour, d'eau très fraîche et de poêle à bois dans une cabane au Canada, là où les chercheurs d'or cherchent encore de l'or. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont des GPS, des téléphones satellites et des chiens de traîneau super bioniques. Davy et Calamity regardent par la fenêtre de leur cabane sans électricité cette étrange mondialisation ultra connectée et si hors sol. Dans tes rêves, il y a une fille qui court sans s'arrêter du pôle nord au pôle sud. Elle skie comme si elle était seule au monde dans la tempête du grand froid du sixième continent. Il n'y a rien à gagner, pas de ligne d'arrivée, pas de médaille, juste le plaisir de l'émerveillement, et ça vaut tout l'or du monde. On la surnomme l'avocate de l'Antarctique et ça lui va plutôt bien. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui de l'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un super héros de la vraie vie. Alors si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves,
France Inter,
Laurence Garcia.
Et pour cette nouvelle rêve partie, une rencontre d'imaginaire dont je me suis inspirée, mon premier coureur des bois, un des derniers trappeurs du Yukon, dans le nord canadien, la fameuse province de la ruée vers l'or de Jack London. Rêve de trappeur, c'est un récit idéaliste et polaire, à deux voix, coécrit avec son épouse Catherine Boivin, et c'est chez XO Édition. Bonjour, bonsoir, Roch Boivin.
Bonjour.
Calamity Jane et Davy Crockett, c'est dans mes rêves, mais quelque part, il y a un peu ça de vrai avec votre femme. Vous ressemblez un petit peu à ça ou pas?
Oui.
Oui, dit-il.
Ma femme, oui.
Et vous?
Oui, moi, oui, je crois que... Mais c'est pas un rêve que je voulais de Davy Crockett. Je voulais vraiment être un coureur des bois. Je voulais vraiment vivre hors contexte et voir le grand froid. J'ai, comme Stéphanie, l'amour des grands espaces et des places perdues. Et je crois que je les ai trouvés. Et je continue toujours.
Ouais, ça nous intéresse bien ce soir.
Je suis surpris, j'ai jamais rencontré Stéphanie.
Attendez, je ne l'ai pas encore présenté, Stéphanie.
Pas encore Stéphanie, mais elle est devant moi, faut que je la voie quand même.
Oui, mais attendez, nos auditeurs ne le savent pas.
Je l'ai connue dehors à mon temps.
Notre seconde s'appelle Stéphanie, donc. Elle est sportive de l'extrême, marathonienne des pôles, exploratrice polaire à pied ou à ski, ex-avocate en droit des affaires, on en reparlera, devenue avocate du sixième continent qu'est l'Antarctique. On est tous aventuriers nés au sens naître. C'est son prochain livre qui sortira le 20 avril chez Ramsay. Donc bonjour, bonsoir Stéphanie Jiquel.
Bonsoir.
Avocate du sixième continent, ça vous va comme expression? Ça vous ressemble?
Oui, après c'est vrai que j'ai toujours du mal à me définir parce que j'aime énormément le changement et c'est vrai que je suis à la fois sportive, exploratrice, j'ai été aussi avocate. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me fascinent et j'aime énormément la vie. Je crois que c'est une passion de la vie et une passion des grands espaces, des déserts. Donc j'ai vraiment du mal à me définir, en fait, c'est compliqué.
Hors piste. Première rencontre dans la vraie vie, mais effectivement, je sens que Roch Boivin a très envie de vous rencontrer davantage, Stéphanie Jiquel. L'un et l'autre, le mot rêve, alors là, pour le coup, vous êtes nos invités bienvenus, rêve, mais concret, du tout est possible, de préférence du côté du Nord ou dans un autre monde. Juste pour nous faire un peu bisquer, Roch, vous pouvez nous dire à quoi ça ressemble le Yukon, où ça se met sur une carte et qu'est-ce qu'on voit à travers les fenêtres de votre cabane en bois?
On voit une cathédrale. C'est une cathédrale de montagne très élevée. C'est blanc, c'est silencieux. C'est vraiment inspirant. Et je me sens vraiment, vraiment en vie quand je vois des paysages comme ça. Et ma femme, pareil. Donc pour moi, au début, c'est d'aller le plus loin possible. De trouver les endroits où personne n'avait été. Et puis c'est vrai, là je voyais vraiment pourquoi les aventuriers ont été au pôle Nord, pourquoi ils ont été au pôle Sud, parce qu'ils cherchaient une vibration intérieure, d'après moi, qui est donnée en voyant un paysage qu'il y a très peu de yeux qui se sont mis dessus. Et puis, j'ai eu la chance de le faire avec des enfants.
Oui, parce que vous, c'est une aventure familiale. Hein. Vous avez eu deux bébés qui sont nés dans la cabane. Hein. Maintenant, vos enfants sont devenus grands. J'imagine qu'ils ne sont pas devenus traders à New York, vos enfants, avec une telle vie dans...
C'est pour dire, vois-tu, j'en ai une, la fille la plus vieille, qui est encore dans les bois, qui a encore 30 chiens, qui fait du traîneau avec ses enfants, qui a les deux enfants. Et puis qui voyage comme moi partout. Cette année, elle va nous suivre en chien avec ses deux enfants, une de 3 ans, une de 5 ans.
Chien de traîneau, elle est professionnelle, Alain.
Oui. Et puis la petite fille de 5 ans a déjà son traîneau, ses 3 chiens, et puis elle voyage déjà derrière sa mère, comme les enfants ont fait. Et ça semble plus cinglé, mais non, je trouve que
cinglé. C'est... Cinglé. Ah, quand même, vous dites cinglé.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Moi, certains vous ont dit que c'était...
Mon père m'a toujours dit que j'étais fou, et c'est les fous qui ont les meilleurs rêves, ceux qui les accomplissent. Ceux qui vont vraiment, vous, pour les chercher, on est jugé, pas négativement, mais les gens disent « mais c'est fou ce que tu fais ». Je l'ai dit à Stéphanie quand j'ai rentré dans le bureau. Fou les trucs que tu fais.
Stéphanie, Jika, j'imagine que ça cause tout ce que peut dire Roch Boivin. Vous aussi, on vous a dit, je ne sais pas, même vos collègues quand vous étiez avocate, genre celle-ci, elle est quand même un peu bizarre.
Oui, alors c'est sûr, hors cadre. Après, je pense qu'il faut un peu de folie parce que beaucoup d'objectifs sont atteignables, beaucoup de rêves sont atteignables, mais il faut un peu de folie, il faut laisser la norme derrière soi. Il faut partir avec sa peur, ses doutes et aller vers l'inconnu et atteindre ainsi un mieux-être. Je pense que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une passion de la vie, c'est un désir d'être, c'est un désir de se sublimer, d'exister et de vivre passionnément chacune des minutes parce qu'on ne sait pas finalement quand est-ce que ça se termine tout ça. Et donc, alors moi aujourd'hui, j'ai décidé de faire corps avec l'environnement de manière, on va dire, plus sportive, dans le sens où je pars à pied, en courant. Et j'ai l'impression, grâce à cette lenteur, finalement, en parcourant des espaces de manière très très lente, et après plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai l'impression de faire corps avec la nature, c'est-à-dire de faire plus qu'un. Quand on a très faim, qu'on est épuisé, qu'on n'en peut plus, on a l'impression de vivre dans un environnement qui est monotone. En réalité, il n'est absolument pas monotone. Quand vous traversez l'Antarctique, on apprend à voir les détails, à voir les couleurs. Finalement, les couleurs ne sont jamais les mêmes, les nuages, les vagues de glace. Et tout ça, c'est absolument magnifique. Mais si on le regarde juste sur une carte postale, on ne voit pas tout ça. Ouais. Il faut vraiment vivre au cœur de l'environnement pour le voir. Et j'accorde beaucoup d'importance à l'expérience, c'est-à-dire aller au-delà des livres pour vivre vraiment ce que l'on a envie de vivre, et on connaît que par l'action et l'expérience. C'est ce que j'ai envie de...
Il faut le rappeler, Stéphanie Jiquel, il y a 3 ans hein, maintenant, on parlait de l'aventure familiale avec femme et enfant de Roch Boivin. Vous, avec votre époux Jérémy Jiquel, vous aviez traversé l'Antarctique en ski via le pôle sud sur 2045 km, hein, je les mets notes, en moins de 74 jours par moins 50, et pour vous, ça a été d'ailleurs le record pour une femme de la plus longue distance sans assistance et sans chien de traîneau, les fameux chiens de Roch Boivin. Mais vous le dites, c'est pas une recherche de l'exploit, de la performance, hein.
Non, c'est pas une recherche de la performance, c'est vraiment une recherche d'un corps à corps avec l'environnement. Et c'est la même chose quand je pars plusieurs jours pour courir le long d'un chemin de grande randonnée, par exemple, même en France. En fait, ce que je recherche, c'est vraiment ce corps à corps. Et on fait corps avec l'environnement quand on progresse de manière lente pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est vraiment ce que je suis allée rechercher en Antarctique. Alors, il s'est retrouvé que j'ai fait ce record, mais c'était pas du tout l'objectif. Au début.
Les rêveries, vous parliez tout à l'heure, l'imaginaire en blanc, qu'on soit sous une tente dans l'Antarctique ou dans la cabane en bois du côté du nord canadien, on réfléchit, on rêve, il y a un imaginaire autre aussi, là il est tard ce soir, les bruits de la nuit, on entend les loups hurler, on entend autre chose que les klaxons, forcément.
Ouais, non, forcément non. Premièrement, c'est le silence. C'est le silence qui est beau. Le silence est incroyable. Il n'y a pas de silence comme ça. Tu entends tous les petits bruits. Plus haut dans l'Arctique tu montes, et plus ça devient silencieux, et plus ça devient beau. On dirait que tu prends un autre niveau. Et dans les bois, ça devient plus bruyant, mais des bruits compatibles à l'humain, donc le loup certainement est toujours là, avec les chiens, on en a tout le temps. Et puis moi, les loups, c'est une bête que je trouve super jolie. Moi, tu vois, on dit, je suis trappeur, je ne les trappe pas, les loups. L'humain pense toujours être capable de régler la nature. Moi, c'est une fallacie, c'est pas vrai, on peut pas. Donc la trappe, oui, c'était une situation un peu... C'est la façon qu'on pouvait faire une vie, nous, dans les bois, que je pouvais vivre là-bas, humblement. Très humblement, mais on a vu une vie très nomade. J'ai fait comme toi, Stéphanie, j'ai vraiment choisi les endroits les plus éloignés, et puis on va voyager tous les ans, on faisait une petite cabane.
Ah, mais oui, on a eu des cabanes. Je sens qu'on a bien voyagé avec vous deux, Stéphanie Gitkel et Roch Boisvin, voilà, du côté des autres bouts du monde, jusqu'à minuit. Vous postez également vos songes à vous, rêveurs ou sédentaires, ou voyageurs, sur notre page Facebook Dans tes rêves. La rêve partie du dimanche soir de France Inter, mitonnée par le gang des rêveuses, Marie-Hélène Fauquier, la réalisation. Leur grand Besançon, la préparation, Muriel Pérez pour la programmation. Et ce soir, à la technique, notre rêveur Nicolas Slimani. Belle soirée.
Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. She had tanned the color of her hair. Her voice was soft and cool. Her eyes were clear and bright. But she's not there. Well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about. Say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked. The way she had turned the color of her hair. Her voice was soft and cool. Her eyes were clear and bright. But she's not there.
Zombies sur France Inter.
D'après mes tout derniers calculs, pour faire le tour de la Terre...
Je m'arrête comment ?
Il faudrait 80 jours.
C'est un pari impossible à tenir, admettez-le.
Je relève votre défi !
Laurence Garcia. Dans tes rêves.
Et des défis, des tours du monde, il va y en avoir ce soir avec Roch Boisvin, coureur des bois, l'un des derniers trappeurs du Yukon dans le nord canadien, et Stéphanie Gitkel, marathonienne des pôles et exploratrice polaire. Comme à chaque fois, nous revisitons l'imaginaire de l'enfance, qui explique aussi qui l'on devient. Je commence par vous, Roch Boisvin. Vous avez grandi dans une petite ville plutôt paumée, hein, c'est ça, dans la province du Québec.
Très, très bourgeois.
Très bourgeois.
Très bourgeois. Une petite ville bourgeoise. Mon père, mes parents, une belle famille exemplaire. Tout le monde s'aime. 6 enfants, l'école, le sport, athlète, tout le monde. Et moi, par exemple, ce qui a fait le commencement de tout ça, c'était mon arrière-grand-père.
Voilà, c'est lui le héros, en fait.
Exactement. Lui, là, quand il est mort, j'avais 8 ans. Mais quand j'étais gamin, on allait sur mes arrière-grands-parents. Une fois par semaine, c'était obligatoire. Il fallait aller voir les grands-parents, les arrière-grands-parents. Et lui, il avait la chaîne en pépite d'or, comme ça, pour la montre, la moustache blanche, comme ça, et puis le petit filet, ses cheveux blancs. Il comptait tout le temps les histoires du Klondike. Lui, son frère, Ludger Beaumont, était monté au Klondike en 1910, et il avait passé 6 ans pour faire la fortune de la famille.
C'est un chercheur d'or.
Un chercheur d'or, voilà. Et puis, il comptait les histoires, et pour un môme de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'était les trucs de Jack London, que nous, il n'était pas traduit en français dans le temps, oui. Il n'y avait pas de traduction. Donc j'en rêvais à 8 ans, moi j'avais décidé à 8 ans déjà que je monterais au Klondike pour voir si c'était vrai. Si vous voulez voir, c'était la vérité. Donc j'y suis monté et je peux t'écrire comment c'était quand je suis arrivé en 77. Un petit village avec les trottoirs en bois qui ondulent, les branches, les fleurs qui sortent des trottoirs, les rues en gravier, les hôtels avec les portes là. On pouvait s'attendre à John Wayne, au Clint Eastwood, à tous les moments sortir avec le chapeau de cow-boy dans le coin.
D'ailleurs, vous-même, vous portez un exactement. Chapeau,
ça, c'est mon, cow-boy. Hein. C'est mon habit de clown, ça.
C'est ça. Ah, c'est de clown, c'est pour aller à Paris et aller voir les journalistes,
Non, je l'ai tout le temps, quand même.
D'accord.
Et les gens, même au Yukon, disent, Rock, tu mets ton habit de clown, mais on a des chevaux, quand même. On travaille avec les chevaux.
Les chevaux sont près de la maison de la radio.
Ils sont parqués dehors, les chevaux. Donc, c'est ça qui m'a commencé. C'est ça qui m'a amené au Yukon.
Et à 18 ans, en 78, majorité, liberté, on lâche tout, la famille, le lycée, pour devenir un héros comme le grand-père, et comme lui aussi peut-être.
Ok. Et Davy Crockett. Où est Crockett? Répondez. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans?
Il y a un ours, il lui fait risette.
Risette à qui? Ah, vous autres chasseurs, vous vous croyez malin, mais personne ne croit vos histoires. Crockett!
Davy, Davy Crockett, le plus grand des pionniers.
Vous connaissez la chanson, forcément.
Oui, certainement. Je l'ai entendue quand j'étais gamin. Et certainement, je pouvais m'appuyer une fois à 8 ans, 10 ans, tout ça. C'était Davy Crockett, c'était le héros de toutes les gens, je crois. Des jeunes, à ce temps-là, au Québec, c'était l'homme du bois.
Pas forcément le héros de votre père, hein, d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure. Parce que, quelque part, les coureurs des bois ont mauvaise réputation. C'est des gens qui vivent comme autrefois, à l'ancienne. On les prend un peu pour des marginaux.
T'as raison, c'est ça. Mais j'avais même pas pensé à mon père et mes parents. J'étais tellement égoïste, j'avais tellement l'idée d'aller où je voulais aller, que je suis parti sans le dire. Je suis parti en disant, je vais partir pour un mois ou deux et je reviendrai.
25 ans après, quoi. Enfin,
a pris 4 ans avant que je revienne, ça a pris 2 ans et demi avant qu'ils attendent des nouvelles de moi. Ça, c'est un truc méchant, maligneux, oui. J'aurais pas dû faire à mes parents. Ma mère a souffert grandement. Mais quand tu viens d'une famille bourgeoise et tu dis, ton père te dit, tu vas être ingénieur chimiste, et puis tes sœurs sont déjà aux universités, tout ça, tes frères, il a dépensé beaucoup de pognon, beaucoup de temps pour t'éduquer, tout ça. Et tu dis, moi je pars, je vais être un homme des bois. Qu'est-ce que tu penses que ton père dirait?
J'imagine
tu peux t'imaginer exactement ce qu'il dirait.
C'est clair.
C'est comme Stéphanie, si tu aurais dit à tes parents, moi j'arrête, je veux pas être avocate, je vais courir les Arctiques en ski, à pied, je vais me faire chasser par les ours polaires, et puis...
Il tend la question, alors, parce que vous, effectivement, c'est plutôt les grandes écoles, HEC, avocate, ce que vous avez été, hein, d'ailleurs, alors c'est quoi la réaction de papa et maman?
À quel âge t'as rêvé?
Depuis toute petite, en fait, j'avais un désir d'ailleurs, je voyageais absolument pas. Et j'avais un désir d'ailleurs, de voyage, de grands espaces. Et je me suis dit, mais comment atteindre cet ailleurs? Je me suis dit, alors, j'évoluais pas dans un univers où on faisait pas de sport ni rien. C'était vraiment un univers qui était très éloigné de l'exploration et du sport. Et je me suis dit, le seul moyen d'atteindre cet ailleurs, de te donner les clés en tout cas pour pouvoir construire la façon de partir, c'est de faire des études. Donc je me suis lancée à fond dans les études et je me suis dit, au moins tu réussiras à avoir les clés pour pouvoir partir, construire des voyages, construire des expéditions. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc je suis devenue avocate et puis ensuite les régions polaires. C'est vrai que ce sont des véritables projets entrepreneuriaux quand on part, parce qu'il faut trouver des fonds, il faut monter une logistique, monter une équipe, etc. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que mon parcours m'aide dans ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour les parents, c'est pas évident.
C'est sûr.
Mais à quel âge?
De savoir que
à quel âge t'en rêvais?
Vous êtes dans les régions polaires.
Elle l'a pas fait tout de suite. Elle l'a pas fait tout de suite à 18 ans, genre au revoir papa et maman. Elle a attendu un petit peu.
J'ai attendu un petit peu. Ouais. J'ai commencé à voyager à 24, 25 ans.
Mais je veux dire, avant de commencer, à quel âge t'avais le rêve dans toi? T'avais le rêve d'être toute jeune?
À 6 ans, 8 ans.
6 ans,
j'en
c'est ça, je veux
déjà,
dire.
Oui.
Les rêves, ça commence très tôt. Normalement, oui. Les rêves, ça commence très tôt. Ça germe tranquillement. Tu t'avais trouvé les clés.
Mais passe ton bac d'abord, quoi, en fait.
Ouais, exactement.
Ton HEC d'abord. Et...
Moi, vu que j'avais pas les clés, j'en ai fait les clés.
Ouais, c'est ça. Pour revenir à votre histoire à vous aussi, Rock Boivin, l'autre héroïne de la vraie vie, c'est votre épouse. Hein.
Oui.
Vous rencontrez dans les années 80. Vous êtes tout jeunes tous les deux, hein. Vous avez une vingtaine d'années, elle est anglophone, elle a un sacré tempérament aussi. Hein.
C'était dur à rentrer dans son cœur. J'ai fait un effort, il n'y a pas vraiment, j'ai perdu la barbe.
Oui, la première rencontre, elle vous a taillé la barbe avec son couteau, non?
Oui, mais c'est exactement ce que je crois que vous, tous les deux, vous auriez fait, si vous auriez eu un couteau.
Non, mais déjà, on n'a pas de couteau.
Si quelqu'un vous aurait... Maintenant, moi je lui ai donné, j'étais dans un hôtel, tout ça, et puis je la trouve super jolie. Elle avait un chapeau de cow-boy, les grandes bottes, des belles grandes nattes. Donc, elle a passé à côté de la table, j'étais un peu ivre, j'avais 18 ans, pas très gentil, je lui ai donné une claque sur les fesses, comme ça, elle a passé. Erreur totale. total. Elle m'a regardé blanc. Elle m'a pris par la main, puis elle dit, elle va m'embrasser, non?
Mais non, femme.
Elle a mis le poids sur la table, elle dit, mon cul, c'est à moi.
Oh, waouh!
Personne ne touche à mon cul. Donc, moi, j'ai dit, ah, elle a du caractère, cette dame.
Rare femme a travaillé dans les mines, hein, oui, d'or. Hein. Et d'ailleurs, elle dit que les trappeurs, c'est quand même un univers rusto de tête brûlée. Oui. Hein, vous êtes des rustos quand même, les trappeurs. Hein,
oui, exactement. C'est une image que le monde en fait. Les trappeurs, on n'est pas tous comme ça. Mais oui, moi j'étais comme ça. C'est-à-dire là, j'étais. Moi, j'ai pas vraiment le sens de quoi une tête brûlée en français. C'est un langage.
Tête brûlée, c'est très volontaire, quitte à en faire trop, foncer un peu tête baissée sans forcément réfléchir.
Donc je suis.
Voilà.
Toujours.
Et vous êtes toujours en couple?
Toujours. 40 ans plus tard, on est toujours en couple. J'adore ma femme. Elle est encore super jolie, elle est super gentille. Elle est encore Calamity James.
C'est ça.
Je ne peux pas la pousser. Allez.
Mais non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que le fait de partager comme ça une vie, c'est rude aussi quand même. Hein. Il y a plein de mésaventures que vous racontez dans ces 20 ans.
Voilà. Certainement.
Peur de la mort, des risques.
La glace.
La glace qui peut les ours.
Le froid.
Est-ce que ça.
La solitude.
Ça rapproche ça ou ça peut aussi diviser, ça peut
ça
diviser
rapproche,
un
ça.
Couple hein.
Et ça, je pense que toi, Stéphanie, tu peux faire analogie à ce truc que les situations où. Les gens sont forcés de compter un sur l'autre à 100% pour la vie. T'as autant envie de sauver ton mari que lui a envie de te sauver. Donc là, tu fais un rapport là, qui est incassable. C'est soudé pour la vie.
Stéphanie Jiquel, vos expéditions, vous, se font toujours en couple.
Avec mon mari, toujours. Mm-hmm. Et effectivement, il y a quelque chose de très très fort. Quand on part ensemble comme ça, déjà, c'est difficile d'exprimer ce que l'on a vécu, parce qu'il n'y a parfois pas suffisamment de mots quand on vit le froid, la faim, l'endurance, pendant des semaines, des mois. Et donc forcément, ça rapproche, parce que je peux en parler avec Jérémy, donc mon mari, et ça rapproche. Puis on a vécu aussi des situations extrêmes. Moi, je l'ai vu... avoir faim. Donc avoir faim, c'est quoi? C'est on se cache pour manger, pour pas que l'autre en fait vous voit en train de manger et puisse avoir une réaction.
La faim,
c'est une obsession. On pense qu'à ça vous réveille la nuit alors que pourtant vous dormez pas suffisamment. Donc voir Jérémy maigrir jour après jour,
vous aussi,
c'était
hein.
Alors je l'ai vu encore plus sur lui en fait. Et c'est effroyable, parce qu'on a faim mais en même temps on a envie de donner à l'autre aussi qui a faim. Et ça, c'est quelque chose qui vous unit. Enfin, on était déjà évidemment proche avant de faire ces expéditions, mais ça unit beaucoup de connaître l'extrême, je pense.
L'extrême, à deux, en Antarctique, trouver des mots. Là, vous avez pu en trouver quelques mots dans le grand vent.
Je ne sens plus mes doigts. Le vent me glace le visage. Le sommet culmine à 3000 mètres. Mais il est loin, si loin. Il faut faire vite pour quitter ce continent avant que l'hiver s'installe. L'Antarctique me donne le vertige. Et pourtant, je suis toujours là. Pourquoi s'obstiner à tenter l'impossible ?
Une question sans forcément de réponse, un extrait de votre film Cross Antarctica, où l'on devine l'un et l'autre derrière vos masques et vos doudounes. Pourquoi s'obstiner, et notamment là, l'Antarctique, pourquoi? Parce que c'est un des continents les plus inaccessibles, les moins explorés, les plus rudes.
Je crois que je suis attirée par l'inconnu, par le vide, par le désert. Et effectivement, c'est un continent qui a été peu exploré. J'ai eu envie à un moment donné d'aller au-delà des livres aussi, parce que je crois qu'on connaît grâce à l'expérience. Et donc, quand les premiers explorateurs du début du XXe siècle racontaient le froid, la faim, l'endurance, le ski pendant des heures, j'avais envie en fait de comprendre, au-delà des mots, ce qu'ils avaient vraiment vécu et ce que c'est que ce continent. Et pour connaître ce continent, j'avais besoin de me confronter à lui. Et je sais aujourd'hui que je ne le connaissais pas avant, et qu'aujourd'hui j'ai une meilleure connaissance de ce continent. Et j'ai même l'impression parfois de venir plus de là-bas que d'ici. Et c'est ça qui est très très fort. J'ai un sentiment très très fort vis-à-vis de ce continent, de cet espace. Et j'y tiens vraiment, et je sais que j'y retournerai, oui.
Aller au-delà des livres, devenir auteur de son récit. On continue ce voyage avec vous deux, un autre univers lunaire, polaire, poétique, qui ne ressemble qu'à lui, avec cette foi chaude. Venu d'ailleurs, c'est Arthur H.
à cœur ouvert. Tu me déportes, tu me grands larges, je te détache, tu me dérives. Oh, tue-moi encore, oh, tu me tues, assassine de la nuit. Assassine de la nuit, je t'espionne, tu me soupçonnes, je t'alarme, tu me cambrioles, je te vise, tu me cibles, je me rends, tu me descends. Assassine de la nuit, assassine de la nuit, assassine de la nuit. Assassine de la nuit, oh, oh. Je te hausse, tu me noies, je te coule, tu me bois. Je te sphinx, tu me félines. Je te démon, tu me divines. Oh, tue-moi encore. Oh, tu me tues. Assassine de la nuit.
Assassine de la nuit sublime, Arthur H. Et ce soir, nous visitons les rêves du Tout est possible avec Roch Boivin, coureur des bois, trappeur du Yukon dans le nord canadien, et Stéphanie Jiquel, marathonienne des pôles et exploratrice polaire.
Dans tes rêves.
Ce que l'on voit est plus important que ce que l'on vit. Ou plus exactement, ce que l'on vit risque de ne pas être vu. Il faut savoir voir, et c'est là où réside l'aventure.
Laurence Garcia.
Savoir voir pour vivre l'aventure, je pense que vous avez peut-être reconnu les mots du philosophe et explorateur Paul-Émile Victor, et j'imagine que ça vous cause à l'un et à l'autre. Dans votre ouvrage Rêve de trappeur, Roch Boivin, vous écrivez « Je m'en fiche de gagner de l'argent, faire carrière, je veux vivre comme un trappeur, me sentir en accord avec la nature. Ce que je recherche, c'est la vérité des gens. Dans le grand froid par moins 40, qu'on soit riche, pauvre, indien, noir ou vert, on est toujours sur un pied d'égalité. » C'est ça aussi la leçon.
Et c'est vrai, c'est exactement ça. C'est pas une question d'égalité, d'être plus haut, plus beau, plus gros. Quand t'es avec la nature, dans les grands bois, il y a une connexion spéciale qui se fait. Et le pognon n'est pas important là-bas. Le pognon est important pour partir quand même, pour quand même réaliser que toutes ces expéditions, toutes ces vies sont très dispendieuses, surtout vous Stéphanie, je connais les prix, je vis dans l'Arctique aussi en ce moment, les prix sont exorbitants, c'est incroyable, les avions, tout ça. Et la logistique, là, c'est ma femme qui l'a fait.
Elle s'occupe de la logistique et vous occupez...
D'aller... De rien.
D'aller tracer, d'aller trouver du gibier, d'aller...
C'est moi la tête brûlée qui part devant et qui fait les...
C'est tout construit dans votre cabane hein, aussi, il faudra...
Mais ça c'est encore tous les deux, c'est toujours Catherine et moi. Catherine, elle est une femme qui mesure 1m70, qui est très grande, très adapte avec une tronçonneuse, une motoneige, une équipe de chiens, les chevaux, les skis. Elle a été élevée par un père qui était dans la forêt, qui lui a donné le goût de la forêt. Et donc, elle se cherchait le même rêve. Quand on s'est rencontrés, on parlait pas, je ne pouvais pas lui parler.
Mais oui, elle
est anglophone.
Je ne
parlais pas anglais du tout. Ouais. Je lui disais bonjour, salut. Et puis, je vais manger, je vais dormir, c'est pas mal tout. Et puis, elle avait le goût de l'aventure. Extrême. Vraiment, demain, comme je lui ai dit, on pourrait dire je monte dans l'Antarctique. Et puis, elle dirait OK. Donne-moi un peu de temps pour organiser les trucs. Et puis, si on a l'argent, on ira. Je lui ai dit déjà que je vais y aller. Mais
allez. Une autre façon d'habiter le monde, effectivement, de vivre avec la nature nourricière. J'imagine que ça vous cause aussi, vous, Stéphanie Gicquel, même si, en tant qu'avocate de l'Antarctique, vous portez aussi d'autres messages, des messages écologiques aussi. Mais en disant, voilà, nous, à travers nos explorations, on veut partager ces images du bout du monde. On passe par le pouvoir de l'émerveillement, plus que les discours politiques culpabilisants, donneur de leçons pour alerter aussi autrement.
Alors c'est vrai qu'un des objectifs des expéditions, c'est effectivement de sensibiliser le public à la beauté de ces régions. Grâce à l'émerveillement, on peut avoir ensuite envie de préserver la planète, et notamment auprès des plus jeunes. Ça permet aussi de mieux la connaître grâce aux images. Après, c'est vrai que dans le cadre d'expéditions, c'est compliqué de filmer, de rapporter des images. Il faut déjà apprendre à utiliser le matériel, il faut l'utiliser dans le froid extrême,
oui,
enlever des gants,
50,
ça ralentit la progression. Donc c'est une aventure dans l'aventure. Mais pendant longtemps, je ne l'ai pas fait. Et quand je suis partie en Antarctique, je me suis dit que c'était indispensable parce qu'il y a tellement peu de personnes qui vont dans ces contrées que c'est quand même dommage de ne pas rapporter d'images. Et aujourd'hui, donc, je les montre dans des écoles. Et c'est vrai que les enfants sont émerveillés, ont des étoiles dans les yeux. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Enfin, j'aime énormément ce partage aussi. Je trouve que c'est une autre aventure dans l'aventure et qui est absolument extraordinaire aussi.
Quand on vit depuis une vingtaine d'années comme ça, au fond du Nord canadien, dans une cabane en bois, au milieu de ces cathédrales de glace, comme le dit Roque-Boivin, est-ce que vous avez l'impression de vivre hors du monde, dans un autre monde? Est-ce qu'il y a un monde dit civilisé? Est-ce qu'il y a un monde dit sauvage?
C'est hors monde, c'est pas la même chose, parce que t'as la solitude qui te donne la sensation d'être hors monde. Je veux dire, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas, les premières années, on n'avait pas de radio, toujours on fait des expés, des fois on n'a pas de radio. On n'a pas de téléphone, on les amène pas parce que je trouve que c'est ennuyant. Ça enlève un peu, parce que c'est pas extrême comme toi, Stéphanie, on est loin, mais on est seulement à 300 ou 400 kilomètres de civilisation, peut-être 500 kilomètres. Toi, t'es 2400 kilomètres, donc ça prend quand même une ressource pour s'en sortir.
Dans sa préface, Nicolas Vanier, il dit que vous êtes héritier d'un monde qui s'en va. Il rappelle aussi que vous avez tout appris pour survivre, hein, parce qu'il faut survivre des natifs, comme on dit, des Indiens, de méthodes à l'ancienne, qu'eux même connaissent plus forcément, d'ailleurs. Ça fait quoi de se dire héritier d'un monde qui s'en va? Vous êtes les derniers trappeurs?
Oui, parce que c'est un monde qui n'est plus nécessaire. Voici la fourrure auparavant, c'est quelque chose qui était nécessaire au niveau vêtements, au niveau industriel, tout ça. Et maintenant, la fourrure, c'est quelque chose seulement pour le luxe. Donc, maintenant, ce qu'on fait au niveau de la trappe, on est rendu à le niveau, on trappe encore un petit peu, mais presque plus. On amène les gens pour les éduquer. Comment c'était et comment ça va être. Moi, je dis que la trappe, c'est encore 5 ans maximum, ça sera fini. Et c'est bien, j'en suis d'accord. J'en suis d'accord, parce que les premières années, c'était sanguinaire, jusqu'à au moment où la France, merci à la France en passant, nous a forcés à user des moyens humains, en cliché quand même, de trappe. Donc l'animal devait mourir dans 3 secondes.
Ouais.
Et la France a dit, si vous ne faites pas ça, on n'achètera pas de fourrure du Canada. Donc moi j'étais tellement content quand la France a mis ça, parce que ça, je trouvais extrêmement ça terrible, je trouvais ça dur. Les premières années, je suis allé avec d'autres trappeurs pour apprendre un peu tout ça, je trouvais, les gens qui ont vécu comme nous dans les bois, il n'y en a plus du tout. Les familles qui vivent éloignées comme ça, ou qui ont élevé des enfants et naître là-bas, c'est la fin. Donc c'est toute chose a une fin.
Ouais.
Et je crois que là on est rendu au niveau de, comme Stéphanie, les voyages qu'on fait, c'est pour éduquer les gens.
C'est pour être témoin et transmettre.
C'est pour donner la chance aux gens de dire qu'il faut protéger les trucs comme ça maintenant.
Stéphanie Gicquel, vous qui vivez dans le monde ultra connecté, hein, quand vous n'êtes pas en expédition, comment vous écoutez ces témoignages-là de gens qui vivent dans des bouts du monde, qui sont peut-être les derniers, sachant que vous-même, vous allez voyager dans ces bouts du monde, et en quoi faudrait les reconnecter avec l'autre monde dit civilisé, entre guillemets?
Alors déjà, je trouve fascinant ce que raconte Roque. Enfin, j'adore. Alors c'est vrai que j'aime à la fois la ville comme Paris, comme j'aime également les régions polaires et ces grands déserts. C'est vrai que j'ai du mal parfois à les départager, parce que en même temps, quand je reviens des régions polaires, je me rends compte aussi de ce que l'homme a construit, et à la fois de son génie, mais aussi de la façon dont il a modelé l'espace et finalement fait du mal à cette nature qui nous entoure. Donc je prends conscience de ces deux choses. J'ai l'impression, en fait, de faire un pont entre ces deux mondes, et c'est ça que j'aime énormément. Après, je suis d'accord avec le fait qu'il y a trop de connexions. Et donc aujourd'hui, beaucoup trop d'informations et désinformations, on a l'impression de tout connaître. Or, encore une fois, on ne connaît que grâce à l'expérience et je pense qu'il faut vivre les choses. Et donc parfois, il faut sortir d'Internet, il faut sortir des discours pour aller vivre les choses. Et ça, vraiment, c'est ce que je dis aux jeunes aussi parce que ils sont beaucoup plus connectés que nous. Ils sont nés avec Internet, donc c'est logique. Mais aller vivre les choses parce qu'on apprend vraiment sur le terrain, on apprend en rencontrant les gens et des gens qui vivent ailleurs aussi et pas uniquement autour de nous.
Partez au Pôle Nord et on verra la tronche de vos parents. C'est vrai que votre femme, elle trouve que vous êtes trop idéaliste, Roch Boivin.
Oui.
C'est une bonne maladie. Hein.
C'est une bonne maladie. C'est comme ça, mais on parle d'Internet, tout ça, et vous avez super raison. On peut voir le Louvre sur l'Internet, mais ce n'est pas le Louvre.
Et avez Internet dans vous aviez pas non, Internet
non,
dans votre cabane.
On n'a même pas de télé. On n'a jamais eu de télé. On n'a pas de télé chez nous à la maison. On a une maison à Whitehorse maintenant, un ranch. Et le voisin, il m'a acheté un téléphone. Parce qu'il en avait marre de pas me rejoindre. Il m'a acheté un téléphone Sonic, comme vous avez les trucs là. Mes doigts sont trop gros. Je peux pas le faire fonctionner. Et puis, l'autre voisin, à côté, il m'a acheté une télé. Il a mis la dish, toute la coupe sur la maison. Et on la regarde jamais. On n'est pas habitué.
Le décor est dehors.
Le décor, c'est la radio. Vous voyez, nous,
oui, comme la radio.
Notre vie, c'est la radio comme ici. C'est la radio CBC Canada.
Ouais.
Ça, c'est notre connexion vitale au monde extérieur. C'est la seule station qu'on peut prendre dans les bois. Et depuis 40 ans, ça a toujours été notre connexion au monde. Ah. Parce que tu as des programmes comme toi.
Même s'il paraît que votre femme trouve que les voix des radios sont trop speed, trop rapides.
Pour parler en français?
Oui.
Bah,
ou même en anglais, mais elle trouve qu'on parle
trop
vite.
Si je veux te parler en québécois, quoi.
Oui, vas-y, allez-y.
Je parle avec moi, tu comprends rien, pas un tout.
Ah, vous avez deux accents, en fait. Vous êtes bilingue.
Moi, si j'étais un rusé, je peux parler en québécois, je parle en français.
Vous avez gommé l'accent pour nous. Alors.
Bah non, attends.
Dommage.
I'm all out of place.
Sur France Inter, et ce soir nous parlons de rêves, d'exploration, de rêves réalité dans le Gros Nord et ailleurs avec Roch Boivin et Stéphanie Jiquel.
Dans tes rêves.
As-tu peur de voir les étoiles? Je peux te montrer comment les atteindre.
Laurence Garcia sur France Inter.
Il est bientôt minuit, c'est l'heure de notre dernière séquence imaginaire et comme à chacun de mes invités, je vais vous demander à l'un et à l'une de fermer les yeux. Allez hop, vous vous plongez dans votre noir intérieur. Vous me répondez des yeux fermés, c'est pas toujours évident. Je vais commencer par vous, Roch Boivin. Dans vos rêves les plus fous, si vous pouviez justement recroiser cet ado qui énonçait à son père, pas forcément content, qu'il voulait être coureur des bois, trappeur, comme David Croquette, avec du recul, qu'est-ce que vous lui conseillez à ce môme, à cet ado, qui n'est pas si loin, avec son chapeau de cow-boy ? Les yeux fermés.
De foncer. De foncer, moi, c'est l'attitude que j'ai eue. Donc foncer à l'ado qui veut le faire, de ne pas avoir peur du tout. Du tout, du tout. De vraiment y aller avec l'esprit du cœur et d'avoir une vision. De garder focus sur la vision, de ne pas larguer le focus, la vision. C'est ça que je lui dirais.
Et même si parfois c'est dur dans le quotidien, de ne pas renoncer, parvenir en arrière.
De ne jamais renoncer, de trouver dans la misère la plus profonde la beauté du pays qui t'entoure et le feeling, la sensation d'être en bonne direction où tu veux aller.
Les yeux fermés, Stéphanie Jiquel, vous pouvez recroiser cette jeune étudiante HEC, avocate, qui finalement va explorer ses aventures pour de vrai quelques années après. Vous lui dites quoi ?
Alors, je suis totalement d'accord avec Rock. Je pense que je lui dis la même chose, c'est-à-dire que je suis très contente en fait, du chemin parcouru et du coup, je lui dirais de refaire à l'identique, de foncer, de se dépasser, de vivre ses rêves. Il y a des difficultés, des obstacles sur le chemin, mais finalement, heureusement, parce que je pense que l'accomplissement ressenti est vraiment à la hauteur des obstacles surmontés. On apprend de chacune des difficultés. Donc il faut vivre ses rêves. La vie est très courte, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Et donc il faut faire le maximum pour vivre pleinement. On n'aura pas suffisamment d'une vie pour vivre tout ce que l'on a envie de vivre. Mais en tout cas, il faut essayer de faire le maximum et de remplir chacune des minutes de moments de joie, de beauté de paysage, de rencontres extraordinaires. Donc je lui dirais de foncer, de continuer sur cette route qu'elle a choisie. Voilà.
Elle enfonce tous. Toujours les yeux fermés, comme je vous ai vu, très curieux l'un de l'autre. N'ayez pas arrêté de papoter durant les disques. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à l'autre, mais tout en fermant les yeux ?
Moi, j'en ai une pour
Allez-y,
toi.
Allez-y, j'en étais
Moi,
sûre.
J'en ai une pour toi. Tu ne manques pas les arbres ?
Je ne monte pas les arbres.
Quand tu voyages dans l'Arctique comme ça, là, quand tu revois un arbre, de la forêt, quand tu revois la forêt, quand tu sors de l'Arctique, là, est-ce que tu fais accolade avec un câlin au premier épinette que tu vois, même s'il fait un demi-mètre?
Oui, alors quand je reviens, effectivement, en Antarctique, par exemple, il n'y a aucune faune, aucune flore, il n'y a aucune forme de vie qui s'est adaptée sur ce continent. Et c'est vrai que quand je retrouve que ce soit les forêts, les chemins de grande randonnée ou même les villes, je ressens beaucoup d'émotions, c'est-à-dire que tout me semble petit déjà, c'est-à-dire que je parcours la plupart des espaces à pied parce que tout me semble finalement accessible à pied et effectivement je ressens un bonheur de vivre et j'ai envie d'embrasser ce monde donc oui, je sens beaucoup d'énergie quand je revois tout ça et en fait je trouve qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup trop de détails, c'est-à-dire que quand on arpente ces continents qui sont déserts, on apprend à remarquer les détails et quand on arrive ensuite dans la ville ou dans la forêt où là il y a beaucoup de faune, beaucoup de flore, il y a trop de détails, il y a trop de choses à regarder et donc je suis fascinée, émerveillée par tout ce que je vois. Donc c'est voilà, fantastique.
Vous pouvez réouvrir les yeux l'un et l'autre. Je savais que vos imaginaires allaient être bien connectés ce soir. Ravie de cette rencontre entre vous deux, vos deux sens de l'aventure et de l'humain aussi. Merci beaucoup. Pour continuer de rêver, il y a Rêve de Trappeur, signé Rock et Catherine Boivin, l'incroyable témoignage des derniers trappeurs du Yukon et c'est chez XO Éditions. Puis c'est assez drôle aussi, il y a beaucoup d'humour,
ouais,
ça vous ressemble. Et Stéphanie Jiquel, on est tous aventuriers. Votre prochain livre sortira le 20 avril chez Ramsey. Merci beaucoup, à bientôt, beau rêve, belle suite.
À bientôt.
On se rencontrera sur la piste, toi et moi, certainement.
Oui, c'est sûr.
Je pense.
À la ligne des arbres. Les continents se séparent.
Dimanche prochain, nouvelle rêve partie avec cette fois-ci changement de corps, l'écrivaine de polar Danielle Thierry qui fut la première femme commissionnaire divisionnaire de la police française et l'artiste Woody, créatrice de Murder Party et de jeux de rôle en grandeur nature et notamment en entreprise. On va bien voyager aussi. Et bien sûr, oser rêver, l'imaginaire est notre plus grande liberté et personne ne peut nous l'enlever.